Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un sabbat édifiant et reposant. Nous sommes familiers avec 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13. Je m'y rapporte pas, je vous le lis. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La Bible mentionne ici trois vertus de base. Ce sont des choses très importantes pour un chrétien. Et nous savons aussi que la Bible est un ensemble. La Bible est un tout. La Bible se complète. Et la Bible se répète. Nous savons que l'apôtre Paul a écrit un certain nombre d'épîtres, mais il y a d'autres épîtres, des épîtres qui sont généralement connus sous le nom d'épîtres générales. D'épîtres générales ou épîtres catholiques, le mot catholique vient d'un mot grec catholikos, qui veut dire universel, et ces épîtres donc sont connus sous le nom soit épître général, soit épître catholique dans ce sens-là, ou épître universel. Il y en a sept. Jacques parle de la foi. Jean, où il y a trois épîtres générales. Jean parle de l'amour. Et Pierre, où il y a deux épîtres, parle de l'espoir. L'épître de Jude constitue le septième épître de la section d'épître général. Nous savons que l'ordre dans la Bible, c'est d'abord Jacques, ensuite 1 et 2 Pierre, et ensuite 1, 2, 3 Jean. Mais j'ai voulu terminer avec Pierre, qui parle de l'espoir, parce que ça a à voir avec ce sermon. L'espoir est un grand thème dans la Bible. Je peux vous donner plusieurs références, je vous donne qu'une seule référence, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 8, et je le cite, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et nous voyons donc ces trois thèmes qui reviennent dans ce verset, la foi, la charité et l'espérance. La Bible donc parle de casque, ayant pour casque l'espérance du salut.
Un
casque, en tant qu'armure, c'est quelque chose qui nous protège. Quelque chose qui nous protège d'un coup peut-être fatal. Et l'espérance nous protège, par exemple, du découragement ou le fait d'abandonner au cours du chemin. C'est un thème qui revient et les hommes de Dieu vivaient avec l'espoir. Vivaient avec cet espoir du royaume. Cet espoir faisait partie de leur vie. Avant de regarder l'espoir plus en détail dans les épîtres de Pierre. Regardons, si vous voulez bien, le caractère de Pierre. Nous savons bien que Pierre était impétueux. Vous rappelez, c'est Pierre qui a tiré son épée, qui a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur quand le Christ était arrêté. C'est Pierre aussi qui s'est jeté dans la mer quand il a vu, une fois que le Christ était ressuscité, et qu'il a reconnu, que tout le monde a reconnu que c'était le Christ, il s'est jeté dans la mer. Et Pierre avait une personnalité extravertie. Souvent, il était le plus vocal des 12. Il était aussi privilégié d'être avec Jésus lors d'événements clés comme la transfiguration et à la résurrection de la fille de Jaïrus. Mais Pierre était toujours partant. C'est lui qui a commencé à marcher sur l'eau. C'est lui souvent qui prenait la parole. Et Pierre est devenu très courageux, lui qui a renié le Christ 3 fois, juste avant la crucifixion du Christ, comme le Christ l'avait du reste prédit. Il est devenu très courageux et il avait beaucoup d'amour pour les frères. Mais Pierre avait besoin d'espoir. Regardons, si vous voulez bien, Jean chapitre 21 et le verset 18. Jean chapitre 21 et le verset 18, où nous lisons ceci. C'est le Christ qui parle à Pierre après sa résurrection. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pierre n'allait pas avoir, n'a pas eu, un mort tranquille. Le Christ a précisé qu'il allait souffrir. Et donc, Pierre, face à cette épreuve à l'avenir, avait besoin d'avoir ses yeux sur autre chose. Était obligé, pour tenir le coup sur un plan spirituel, d'avoir ses yeux sur autre chose, d'avoir l'espoir. Il savait qu'il allait être mené où il ne voulait pas aller. Et il avait vraiment besoin de l'espérance, d'avoir l'espoir dans sa vie de tous les jours. Et c'est un des thèmes des épîtres de Pierre, c'est l'espoir. Un des thèmes des épîtres de Pierre, c'est l'espoir, c'est le sujet de ce sermon. La date la plus communément acceptée de la rédaction pour son premier épître par les érudits, c'est de 67 de notre ère. D'autres parlent quelques années plus tôt. Et généralement, le deuxième épître de Pierre, on situe ça entre 66 et 68 de notre ère. De temps en temps, nous entendons parler de visionnaires. Mais ce dont le monde a besoin, c'est un bon type de visionnaire. Et il faut avouer que ce genre de personne est plutôt difficile à dénicher. La Bible parle des gens qui imaginaient l'avenir. Pour eux, l'avenir était réel, était concret. Ils étaient vraiment des bons visionnaires. Comme c'est marqué à propos d'Isaac, ont vu des choses à venir. Et en parlant de Moïse comme voyant celui qui est invisible. Et l'Épître aux Hébreux contient un chapitre souvent qualifié de chapitre de la foi. C'est une sorte de panthéon spirituel évoquant ceux pour qui Dieu avait la priorité. Ces hommes et ces femmes avaient aussi quelque chose en commun. Ils étaient largement des visionnaires, mais pas des visionnaires ordinaires, le bon type, justement, de visionnaire. Ils imaginaient le monde non seulement comme il pourrait être, mais comme il sera à l'avenir. Et la Bible révèle que les visionnaires de Dieu vont régner avec lui pour l'éternité. Mais revenons à un Pierre, le premier épître de Pierre, et nous pouvons nous poser la question, pourquoi cette lettre était-elle rédigée? Il faut savoir que les chrétiens à qui Pierre écrivait et qui sont mentionnés dans le premier verset du premier chapitre, il faut savoir que les chrétiens qui habitaient ces régions étaient constamment persécutés et opprimés. Et Pierre leur écrivait pour les encourager à persévérer dans la foi. avec la garantie absolue de recevoir la vie éternelle au retour du Christ. L'espérance dans les promesses divines est l'un des thèmes majeurs, justement, de cet épître, de pair avec la nécessité d'endurer patiemment les souffrances et les épreuves, tout en se comportant chrétiennement. D'après le Zondervan Illustrated Bible Dictionary, l'objet de cet épître est le suivant. La note, je cite, « La note dominante de cette lettre est la souffrance et la manière chrétienne d'y faire face. » L'auteur, donc Pierre, s'y efforce de transmettre un message d'espoir aux chrétiens qui ont souffert la persécution, un message d'espoir aux chrétiens qui ont souffert la persécution et qui succombent au découragement quand ils ne trouvent aucun redressement. Il fournit une exhortation de vérité chrétienne prévue à affermir les croyants. Nous voyons par exemple dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 12 l'espérance, 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 12, l'espérance chrétienne qui est détaillée. Et nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13 à verset 21, verset 13 à verset 21, l'espérance qui s'appuie sur le sacrifice du Christ et sur son rôle actuel, investi de gloire et de puissance. Mais une des formes d'encouragement dont Pierre se sert est d'insister sur l'espérance de la résurrection. L'un des termes dont il se sert en ce sens est le mot « grâce ». Qu'est-ce que la grâce représente? Les commentaires expliquent que le mot « grâce » a plusieurs sens, notamment celui de, et je cite, « bonne volonté, de bienveillance aimante, de faveur, pour décrire la bienveillance de Dieu à l'égard des hommes. » Le mot évoque l'idée de gentillesse accordée à quelqu'un qui ne le mérite. Citation donc de Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament. Le mot grâce est utilisé dans des passages comme, par exemple, et on va s'y rapporter, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 10. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservé en fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Nous le trouvons aussi dans le verset 13, toujours le même chapitre, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et de nouveau dans 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 7, quand il est question du comportement du mari à l'égard de leurs épouses. 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'espérance peut être définie comme une attente positive de l'avenir, même quand on se trouve dans des situations adverses. Une attente positive de l'avenir, même quand on se trouve dans des situations adverses. Et avec une foi ferme, et en espérance vivante, les chrétiens savent que rien de ce qui se passe sur terre, dans leur vie, ne peut affecter négativement l'héritage qui leur est promis. Et Pierre insiste beaucoup justement sur le second événement de Christ, de cette réalité. Et l'attente du second événement est soulignée dans plusieurs versets. Il est souligné, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 5. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Je saute ici au milieu d'un contexte. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est aussi dans le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le deuxième avènement de Jésus-Christ, donc, nous avons déjà lu chapitre 1 et le verset 13, chapitre 1, verset 13, et dans le chapitre 5 et le verset 1, chapitre 5, verset 1, nous voyons que Pierre s'attendait aussi à devenir, je cite, participant de la gloire qui doit être manifestée. Dans le chapitre 5, Pierre s'adresse, parle aux anciens, et dans le verset 4, nous voyons ce qu'il dit aux anciens, entre autres, dans le verset 4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Mais revenons, si vous voulez bien, au début, le début de 1 Pierre, et nous voyons que déjà, dès le début, pour ainsi dire, il y a un langage très positif, un langage d'espoir, justement. Dans le verset 1, les destinataires de l'épître sont mentionnés. Dans le verset 2, il y a des salutations. Et ça nous amène au verset 3. Verset 3, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est pas uniquement une espérance, c'est une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. C'est une espérance qui est réelle, qui fait partie, qui devrait faire partie de notre vie, qui nous soutient, qui nous porte. C'est une espérance qui est concrète, qui est réelle. Sir Winston Churchill a dit ceci. Nourrissez vos espoirs, mais il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité. Ou bien, nourrissez vos espoirs, mais ne négligez pas les réalités. Ne négligez pas les réalités. Mais il faut nourrir les espoirs. Les réalités dans nos vies, les difficultés dans nos vies, nous en sommes très conscients. Nous vivons avec ces réalités tous les jours. Et face à cette réalité qui sont parfois difficiles, parfois nous avons des épreuves, face à ces épreuves ou ces réalités, il faut nourrir notre espoir. Il faut développer cet espoir qui est au-dedans de nous, et c'est ce que Pierre fait. Il s'efforce de nourrir l'espoir de ces chrétiens qui sont dans une situation difficile, pour que cet espoir reste réel, reste vivant. Nous disons bien en français, l'espoir fait vivre. Et c'est souvent vrai. De Cervantes, qui était le plus grand écrivain de la langue espagnole, et que nous associons avec Don Quichotte, a dit, où il y a la vie, il y a l'espoir. Où il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est intéressant parce que justement, de Cervantes a passé 5 ans de captivité. Il était captif des pirates pendant 5 ans. Mais il a gardé l'espoir. Et tant qu'il y a la vie, nous espérons que les choses vont s'arranger. J'ai voulu vous lire ici un extrait que j'ai relevé du courrier. Le journal Le Courrier, c'est un article intitulé « Survivre à l'extrême. Survivre à l'extrême. Je vous lis l'article, une partie de l'article. Viktor Frankl, 1905 à 1997, était un psychiatre autrichien. Avant la Seconde Guerre mondiale, il refuse de participer à l'euthanasie des malades mentaux par les nazis. Par la suite, il est interné dans les camps de concentration, dans celui d'Auschwitz. Toute sa famille a péri dans les camps. Il est resté le seul survivant. Dans un ouvrage intitulé « Découvrir un sens à sa vie » qu'il a créé en 1946, donc après la guerre, il revient sur la question « Qu'est-ce qui caractérisait les personnes ayant survécu à l'expérience concentrationnaire ?» Viktor Frankl a été tout d'abord surpris de constater que ce n'étaient pas les personnes en apparence les plus robustes physiquement qui avaient survécu. Il s'agissait plutôt, selon lui, des personnes qui avaient la vie spirituelle la plus riche. Et bien sûr, l'espoir fait partie de cette vie spirituelle riche. Donc il s'agissait plutôt, selon lui, des personnes qui avaient la vie spirituelle la plus riche, car elles étaient capables d'y trouver un refuge en dépit de la dureté du camp. Pendant sa détention, Frankl s'imaginait, à la fin de la guerre, en train de donner des conférences sur la psychologie des prisonniers dans les camps de concentration. Les survivants étaient également, selon lui, les personnes qui étaient capables de donner un sens à leur vie. Un sens à leur vie. C'est ce que Dieu nous permet de faire dans l'Église. Le sens de l'existence consistant alors pour lui, c'est un plan personnel, le sens de l'existence consistant alors pour lui en l'espoir de revoir sa femme. L'espoir de revoir sa femme et de pouvoir rédiger de nouveau le livre dont il avait perdu le manuscrit. Et en qualité de médecin, il s'était par ailleurs porté volontaire pour soigner les prisonniers malades de typhus, se disant que, quitte à mourir, autant le faire en étant utile aux autres. Dans l'Église, on apprend à servir et à être utile aux autres. À la fin du verset 3, nous avons lu « Par la résurrection, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Nous avons une espérance vivante parce que le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité et grâce à cette résurrection, nous pouvons avoir un avenir. Pierre a changé parce qu'il avait cet espoir. Il avait en lui, au-dedans de lui, cette réalité. Continuons à lire, si vous voulez bien, dans le chapitre 1, toujours le verset 4. On va reprendre le verset 3 pour mettre le verset 4 dans son contexte. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Qu'est-ce que nous pouvons espérer? Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Quel héritage nous avons? Quand il s'agit d'héritage entre les êtres humains, ce n'est pas rare que ça engendre des disputes dans la famille, encore vivante, des luttes, des problèmes, et en fin de compte, un éloignement les uns des autres. Mais l'héritage que Dieu nous réserve est immuable, ne change pas, ne dégénère pas avec le temps. L'héritage reste constant, l'héritage reste magnifique. Et les fêtes de l'Éternel, nous allons au-devant de la fête des tabernacles, les fêtes de l'Éternel nous donnent un aperçu de cet avenir, de cet héritage. C'est merveilleux, nous pouvons imaginer la vie éternelle avec tout ce que cela comporte. Nous serons à ce moment-là transformés, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous serons transformés en être, dans les êtres spirituels. Nous n'aurons jamais faim. Nous pouvons nous déplacer à volonté. Et nous n'allons jamais pécher. Nous serons même au-dessous des anges. Pierre met l'accent sur le second événement du Christ. Et c'est ce que nous voyons à travers cet épître, dans le verset 5. Le verset 4, donc nous devons le lire. À vous, verset 5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Il va y avoir un aboutissement de l'époque de l'homme. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, donc la réalité par rapport à cet espoir que nous avons pour l'avenir, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais il y a un but dans les épreuves. Il y a une raison pour laquelle Dieu permet qu'on passe par des moments difficiles. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça, c'est notre espoir. Il voulait encourager les chrétiens. Il parle de nos attentes. Et c'est ça aussi, bien sûr, l'attente pour toute l'humanité par la suite dans le plan de Dieu. Chapitre 1 et le verset 13, nous avons déjà lu. Chapitre 3 et le verset 7 aussi. 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 13. 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 13. On va commencer avec le verset 12 pour situer le contexte. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Mais face à cette réalité, verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Cet espoir qui est immuable, cette certitude dans notre vie de chrétien. Et puis, 1 Pierre chapitre 5, verset 4, nous avons aussi lu. Alors, 1 Pierre chapitre 1 et le verset 8. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut de vos âmes. J'ai voulu lire un extrait de Vie, Espoir et Vérité à propos du sujet du salut. Je cite, « Le salut est un don de Dieu offert par sa grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Quand nous nous repentons de nos fautes et nous faisons baptiser, Dieu nous pardonne nos péchés passés. Nous débutons alors un processus qui durera toute une vie de repentir et de croissance dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À un autre moment, nous lisons ceci, « Ceux qui sont appelés à présent seront sauvés au retour de Jésus-Christ et à la résurrection des saints. La réception de la vie éternelle aura lieu quand le processus du salut sera achevé. » Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies.
ils avaient, les prophètes avaient les yeux là-dessus. Ils avaient les yeux sur le plan magistral de Dieu. Nous avons tous nos difficultés dans la vie. Et la vie comporte parfois beaucoup de difficultés et beaucoup de frustrations. Mais la frustration érode notre foi. Si la frustration n'est pas contrecarrée par autre chose, il faut que ce soit contrecarré. Il faut qu'il y ait un espoir dans notre vie face à la, aux difficultés de la vie. Nous avons besoin de foi et d'espoir pour avoir nos yeux sur quelque chose de plus grand dans le plan de Dieu. Croire en sa capacité pour atteindre des buts dans notre vie personnelle est important pour développer justement une attitude d'espoir. Et il est important, d'avoir des buts dans notre vie. J'ai voulu vous lire un passage dans l'Ancien Testament qui a à voir avec l'espoir, où Dieu à l'époque parlait à son peuple physique, dans Jérémie chapitre 29 et le verset 10. Jérémie chapitre 29 et le verset 10. Le contexte ici, c'est le peuple de Dieu, Juda, qui est en Babylone. Et Dieu les rassure par l'intermédiaire de Jérémie, dans le verset 10, Jérémie chapitre 29 et le verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Dieu allait ramener Juda dans le pays par la suite. Verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Comme j'ai dit, Dieu parle ici à son peuple physique et nous pouvons comprendre à quel point Dieu veut donner à son peuple spirituel un avenir et de l'espérance. Nous donner un avenir et de l'espérance. Que nous ayons l'espérance vivante, justement, dans notre vie. Luc chapitre 22 et le verset 28. Le contexte ici, c'est le Christ qui parle à ses disciples lors de la Pâque, juste avant d'être crucifié. Dans Luc chapitre 22 et le verset 28. Il parle à ses disciples. Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Le principe s'applique aussi pour nous de persévérer dans nos épreuves. Et si c'est le cas, nous avons ce qui est mentionné dans le verset 29. Nous aussi, comme les apôtres, verset 29, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Verset 30. Afin que vous mangiez et bouviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Nous n'aurons pas les mêmes positions que les apôtres, mais nous aurons les positions de responsabilité si nous sommes dans le royaume. Donc le Christ, juste avant de souffrir d'une façon atroce, le Christ leur parlait de l'avenir. Et ce faisant, ils pouvaient avoir leurs yeux sur une vision de l'avenir, de ce qui allait venir, de l'espoir du monde, tout comme nous. Dans le deuxième épître de Pierre, la notion de l'espérance continue. Nous sommes probablement assez familiers avec le premier chapitre dans le deuxième épître de Pierre, où il est question d'ajouter un certain nombre de traits de caractère spirituel les uns aux autres. Et dans 2 Pierre chapitre 1 et le verset 11, Pierre conclut cette section. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 11, c'est ainsi, en faisant ce cheminement spirituel, verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Cette notion de l'espérance, de ce qui nous attend à l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons souhaiter de plus? Verset 19. Toujours le même chapitre, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites du bien de prêter attention. Cette parole prophétique qui alimente, qui nourrit notre espoir. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. De Pierre parle également du juste jugement de Dieu. Et nous pouvons avoir l'espoir que Dieu va juger justement. Dieu va juger justement, ça c'est certain. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Nous avons l'espoir d'être jugés correctement, sans influence néfaste. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, y compris dans ses jugements. Et dans Psaume 37, je m'y rapporte pas, dans Psaume 37, il est question de la justice de Dieu, la justice parfaite de Dieu, même face aux méchants. Et c'est dans le Psaume 37 que nous trouvons la phrase « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Nous pouvons, nous devons espérer en Dieu. Mais pour revenir au juste jugement de Dieu, dans 2 Pierre chapitre 2, nous le trouvons dans le verset 4. 2 Pierre chapitre 2 et le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, il y a un juste jugement de Dieu. Quand il a péché, David préférait tomber dans les mains de l'Éternel que dans les mains des hommes. Dans les mains de l'Éternel, je cite, car ses compassions sont immenses. Dieu est juste, mais Dieu est aussi compatissant. L'instigateur de la rébellion, c'était Satan. Et Satan influence les êtres humains. Verset toujours 2 Pierre chapitre 2 et le verset 9. Le Seigneur, parce que Dieu est juste, et nous pouvons avoir cet espoir dans cette justice de Dieu, un espoir réel, un espoir vivant. Le Seigneur, verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 12 parle d'une certaine catégorie de personnes, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront, parce que Dieu est juste, et ils périront par leur propre corruption. Verset 13, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Dieu délivre les justes, mais Dieu punit les méchants qui ne veulent pas se repentir. Dieu exerce un juste jugement. Et Pierre insiste sur le fait qu'en dépit des délais apparents, le plan de Dieu n'a ni changé ni échoué. Il s'accomplira comme prévu. Il se sert de l'exemple biblique du déluge comme preuve que Dieu fera ce qu'il a dit. Noé prit l'avertissement divin au sérieux et construisit l'arche, étant sans doute continuellement ridiculisé pour cela par les gens à l'époque. Après bien des années, l'eau couvrait toute la terre précisément comme Dieu l'avait annoncé. Dieu a puni le monde dans son ensemble à ce moment-là. 2 Pierre chapitre 2 et le verset 19. 2 Pierre chapitre 2 et le verset 19. Il leur promet la liberté. Il y a des gens qui donnent de faux espoirs aux autres. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans l'Église, nous ne vivons pas dans la corruption. Nous ne vivons pas dans le péché, même si ça nous arrive de pécher de temps à autre. Et le péché ne domine pas sur nous, ne triomphe pas ou ne devrait pas triompher sur nous. Nous avons aussi l'espoir que nous pouvons y arriver, que nous pouvons encore avancer spirituellement, nous pouvons vaincre spirituellement nos problèmes, nos défauts, et même quand nous péchons, et même si nous échouons, nous avons l'espoir de rebondir pour continuer à aller de l'avant. 2 Pierre chapitre 3 et le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté même de Dieu. Mais c'est marqué au début du verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le plan de Dieu va se réaliser. Dieu ne peut pas mentir. Nous avons dans Hébreux chapitre 6, j'y mets rapport, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 17, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 17, nous voyons comme Dieu agit au héritier de la promesse, mais on va commencer avec le verset 16, pour situer le contexte, verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Dieu qui intervient par un serment, Dieu qui ne peut pas mentir, verset 18, justement, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. De saisir cette espérance qui nous était proposée. Cette espérance qui est réelle, qui est là, qui est vivante. Nous devons cultiver cette espérance, nourrir, alimenter cette espérance. Verset 19. Cette espérance, donc la Bible revient sur ce même thème, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Cette espérance est sûre et cette espérance est solide et c'est comme une ancre de l'âme. Un ancre est fait pour arrimer un bateau, enfin pour tenir un bateau en place, pour que le bateau ne bouge pas, ne dérive pas. Et nous ne devons pas nous dériver spirituellement. Nous devons être solides, nous devons être fermes. Nous devons rester, si je puis dire, en place, de ne pas être balayés par les vents, par les courants. par les choses qui vont nous faire dériver. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Quelque chose qui nous stabilise en tant que chrétiens. Nous avons des prophéties dans la Bible qui nous indiquent ce qui va arriver avant le retour du Christ. Et nous pouvons être fortifiés lorsque ces prophéties s'accomplissent, lorsque ces prophéties sont en train de s'accomplir. Nous avons dans Matthieu 24 la prophétie comme quoi cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et quand nous voyons, comme nous voyons maintenant, cet évangile qui est prêché dans le monde entier, nous pouvons garder, avoir, fortifier notre espoir à l'avenir. Alors viendra la fin. Les deux témoins aussi vont faire le ministère pendant 3 ans et demi, et on sait que le Christ va revenir après. Donc les événements qui existent, qui se déroulent dans le monde, devraient renforcer notre espoir, devraient nourrir notre espoir, et devrait nous encourager pour notre propre avenir. Dieu va accomplir son plan. Dieu va accomplir son dessein ultime pour l'humanité. Et Dieu est en train de préparer le retour de son Fils, Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, toujours. 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Comme un voleur. Osterwald dit comme un larron dans la nuit. D'une façon soudaine, inattendue. Mais le retour du Christ est certain. Et le Christ va apporter beaucoup de changements au monde et à la société quand il revient. D'énormes changements. Et c'est même une incitation, puisque nous connaissons, nous avons l'espoir, la certitude que le Christ va revenir, c'est une incitation à nous, chrétiens, de croître. Verset 17, toujours le même chapitre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Le verset 10, toujours le même chapitre, nous l'avons déjà lu. Verset 11, 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 11. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, notre avenir, l'avenir du monde, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant, nous attendons mentalement ces choses, attendant et attend l'événement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Attendons et attend. Attend par notre comportement. Nous attendons, c'est le point de mire, c'est la lumière qui brille devant nous, qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. C'est notre espoir. Et le verset 14, c'est de nouveau une exhortation à être prêt sur le plan spirituel. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, toujours en attendant ces choses, parce que nous avons l'espoir, la certitude de l'avenir. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Nous sommes jugés maintenant, et nous avons, nous chrétiens, toutes les raisons du monde d'être positifs. Parce que nous connaissons notre avenir et nous connaissons l'avenir du monde aussi. Je termine avec Luc chapitre 21, d'abord le verset 28. Luc chapitre 21 et le verset 28. Luc chapitre 21 parle des événements prophétiques. Verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » C'est un encouragement. Nous avons l'espoir que, qu'au-delà de ces prophéties, il y a l'espoir de notre délivrance, la certitude de notre délivrance. Verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Verset 36. Le Christ nous donne un avertissement. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme.